Bonjour à tous, merci. Vous allez devoir me supporter toutes les 6 semaines. Waouh. Oui, j'espère que dans 10 ans, vous direz encore la même chose. J'aimerais, avant de prendre enfin, de continuer l'enseignement d'hier soir, tout d'abord vous présenter un CD, qui est un CD de louange, et j'en suis le producteur exécutif. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. C'est la sœur de Jean-Marc Potenti, Yannick Benoît, qui est la titulaire de Louange chez nous, qui est une professionnelle de la musique et qui a écrit des chants. L'avantage de tous les chants qu'elle a écrits, c'est qu'ils peuvent tous être repris en église. Hein, parce que souvent, on a des CD de louange qu'on écoute avec joie dans la voiture. Mais alors, pour les chanter en église, c'est une cata, parce qu'ils n'ont pas été faits pour ça. Ceux-là ont été faits pour ça. Et c'est un CD entièrement professionnel. Dans le sens que ça a été enregistré avec que des artistes, enfin que des musiciens professionnels. Annick elle-même est une professionnelle. Et ce CD a été, disons, mixé et masterisé à Nashville, dans le plus grand studio d'enregistrement de Nashville. Hein? Et c'est sur une parole de Dieu que je lui ai donnée il y a 3 ans, à la fin d'un culte où je suis allé la voir et je lui ai dit: Annick, voilà ce que le Seigneur me dit. Maintenant, il est temps que tu enregistres un CD. Et sa réponse a été non. Ok. J'ai dit, maintenant tu fais ta vie. Moi je t'ai dit ce que le Seigneur avait dit, et maintenant tu te débrouilles. Et elle est revenue 3 mois après en me disant oui. Alors j'ai dit, ok, on va faire la chose suivante. Toi tu es l'artiste, et moi je suis. Et j'ai créé une association parce que je ne veux pas que des choses apparaissent. Donc j'ai créé une association et on a pu comme ça financer entièrement ce CD. Et je suis là pour le vendre. Non pas que je veuille récupérer de la monnaie, parce que ce que j'ai donné, je l'ai donné et ce n'est pas un problème. Mais simplement, c'est vraiment un CD de qualité avec différents styles de musique. C'est le premier qu'elle fait. Je pense que d'ici 2, 3 ans, on en sortira un second. Mais la prétention que j'ai dans ce second, c'est de la faire enregistrer avec le Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Soyons fous. Non, non, mais je suis un peu jobard, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je me soigne, mais je ne guéris pas et je ne veux surtout pas. Donc voilà, ça, c'est les projets que nous avons. Donc il est en vente, j'en ai 9 avec moi. Mais ce n'est pas grave, si vous en voulez, s'il y en a d'autres, je prends les adresses et je vous les envoie. Là, il est à 18 euros. Si je dois vous l'envoyer, ce sera 20 euros. Pardon? Ouais, je reviens toutes les 6 semaines. Pas avare, mais économe. Il est comme ma grand-mère vosgienne. Elle faisait des crêpes, elles étaient tellement fines qu'elles avaient qu'un côté. Ok, merci Yvon. Une autre chose qui n'a rien à voir avec le CD. Pendant la louange, tout à l'heure, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et j'avais posé une question. Ça, je ne l'ai encore jamais fait en plus de 45 ans de ministère. Alors, ce n'est pas du tout pour quoi que ce soit. La question que je pose ce matin, elle est directe et elle va vous, ah, peut-être vous percuter. Qui a besoin d'argent? Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et maintenant, on va prendre l'enseignement. Hier, nous avons commencé dans un enseignement sur, comme je disais, il est d'actualité, hein, puisqu'on a parlé des clandestins. Aujourd'hui, c'est le grand problème, hein, les clandestins, etc. Mais il n'y a pas que dans les semi-remorques qui veulent aller en Angleterre, dans lesquelles il y a comment dirais-je, il y a des clandestins, mais dans nos vies aussi, bien souvent, sans se rendre compte, sans le savoir. On transporte des clandestins et ces clandestins qui nous pourrissent la vie parce qu'on ne sait pas se débrouiller des fois avec plein de choses et on se retrouve. Et c'est ce que je disais hier, on a disons, identifié, alors je ne sais pas, c'est pas une liste complète, hein, il y en a d'autres, mais j'en ai identifié 4, à savoir les blessures du passé. Nous avons travaillé là-dessus hier soir, nous avons aussi prié là-dessus. Et le deuxième, c'était l'étroitesse d'esprit. Hein, où les blessures du passé, c'est tout ce qu'on a pu nous dire, c'est tout ce qu'on a pu. Même aussi, on a parlé, et le Seigneur m'avait demandé d'insister là-dessus, sur les abus spirituels qu'on a pu subir. Et nous avons travaillé, nous avons prié là-dessus. Et puis, le deuxième clandestin que nous avons nommé, c'est l'étroitesse d'esprit. Hein, bien souvent, nous sommes. nous ne nous considérons pas réellement à notre juste valeur. Nous avons cité le texte de Nombre 13, 31 et suivant, où les espions, lorsqu'ils rentrent de Jéricho, et les 10 qui ont fait, parmi les 12 qui sont partis, 10 reviennent en faisant un rapport négatif, en disant « nous nous sommes vus comme des sauterelles », c'est-à-dire des moins que rien. Et les trois quarts du temps dans notre vie chrétienne, alors que nous avons encore chanté tout à l'heure, que nous avons un Dieu puissant, grand, fort, machin, tout ce que vous voulez, hein. Et à côté de ça, nous sommes toujours dans dire « ouais, mais moi je suis pas grand-chose, moi je suis… » C'est faux. C'est faux. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des hommes et des femmes dont la Trinité a pensé à nous avant la fondation du monde. Nous sommes des gens hyper importants puisque la parole de Dieu nous dit que nous avons amené la Trinité à la jouissance. S'il vous plaît, arrêtez de penser que vous n'êtes rien. On est tous, et nous sommes tous, des pécheurs sauvés par la grâce. Mais arrêtons de dire « Seigneur, merci parce que tu m'as fait grâce et je suis très heureux que tu m'aies fait grâce avec une joie hyper intérieure qui mettra un jour dans l'éternité, enfin, qui pourra sortir. » Et les amis, là, oh, nous sommes, et c'est fait, c'est accompli. Et nous avons aussi travaillé donc là-dessus hier soir, nous avons prié là-dessus. Et ce matin, on va voir les deux derniers clandestins qui sont les espoirs déçus et la pression culturelle. On ne va pas les lire, les textes, mais si nous lisions, par exemple, dans Luc chapitre 24, le texte qui s'appelle « Les pèlerins d'Emmaüs ». C'est un texte qui est très particulier, parce que quand on voit qui était Cléopas et son compère, nous voyons que c'était des hommes qui étaient mariés, entre autres Cléopas, vous verrez ça dans l'évangile de Marc au chapitre 15 et au verset 40, il avait deux fils, Jacques le mineur et Joas, et leur femme, qui avait un prénom très particulier parce qu'elle s'appelait Marie, suivait assidûment Jésus. Et moi je pense que les Cléopas et son collègue là, font partie de ces 70 que Jésus a envoyés deux par deux. Et vous vous souvenez, quand ils sont revenus, ils ont dit « Maître, même les démons nous sont soumis. » Et Jésus leur a dit « Réjouissez-vous, ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. » Et voilà des hommes qui ont parcouru, on va dire, la Galilée, la Judée et tout le territoire d'Israël avec Jésus, qui ont vu, purée, ils étaient aux premières loges, quoi. Ils ont vu des tas de miracles.
Ça ne marche pas bien. Comment on enregistre ? Ok, t'es un peu bloqué.
D'où l'expression « avoir un fil à la patte ». Non, non, ne pensez pas que je pense à ma femme en disant ça. Non, non, c'est pas vrai. Parce que si j'avais un fil à la patte, je ne serais pas là ce matin. Alors, ces hommes qui ont suivi Jésus et qui ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu, on en parlait hier soir, la résurrection de Lazare. Bon, peut-être pour vous, ce n'est pas un grand miracle, parce que vous avez tellement l'habitude de voir des choses ici que un mort cinq jours, hein, qui était supporter de Saint-Étienne et qui disait « allez les verts », voilà, ce n'est pas évident. La résurrection de la fille de Jaïrus, donner à manger à 12 000 personnes, fait partie des miracles, et ces gens-là, et ces gars ont vu ça. Et ils ont entendu le message de Jésus. Ils ont entendu lorsque Jésus parlait que ok, détruisez ce temple et je le reconstruis en 3 jours. Et il savait très bien qu'il parlait de sa mort et de sa résurrection. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces gars qui, le dimanche matin, le jour de Pâques, la Bible nous dit qu'ils partent à Emmaüs, 6 kilomètres de Jérusalem. Et comme j'aime mal le dire, ils ont la tête, comme diraient mes amis siciliens, la faccia lunga. Hein, ils ont la tête des mauvais jours. Les Suisses diraient qu'ils vont s'encoubler dans leur menton tellement qu'ils rasent le sol. Ils sont complètement à la rue. Et il y a un gars qui vient, qui est là, qui ne le reconnaissent même pas, tellement qu'ils sont pris dans leur machin, là. Et Jésus vient leur dire, « Oh, qu'est-ce qui vous arrive ? Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ?» Quoi leur dit-il ? Au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en parole et en œuvre. C'était un prophète. Ils étaient là lorsque Pierre a déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, ce n'est qu'un prophète. Ils étaient complètement à la rue. Ils avaient la tête dans le sac. C'est impressionnant. Des gars qui ont vu des tas de choses et qui sont complètement déçus. Et moi, j'aime beaucoup la fin du texte quand il presse cet homme qui ne connaissent pas tellement, là, qui le presse de rester avec. Et puis à ce moment-là, Jésus prend du pain et je ne veux pas vous choquer en disant ça. Jésus leur fait « Coucou, c'est moi. » Et il disparaît. Et alors qu'ils sont partis à Emmaüs à la vitesse d'un escargot à qui on a coupé les pattes, ils rentrent à Jérusalem en TGV. Quoi, hein. Dépêche-toi, ça presse. Quoi. Il est ressuscité. Et vous avez aussi d'autres personnes comme ça dans l'évangile. Pierre, moi je suis impressionné quand, encore à Pâques, là, enfin après Pâques, j'ai médité, Dieu m'a beaucoup parlé sur la résurrection, mais un jour on y reviendra. Et en fait, on voit Pierre et Jean monter au tombeau, rentrer dans le tombeau, constater qu'il est vide. Et qu'est-ce qu'il est dit après ? Ils retournèrent chez eux, comme si de rien ne s'était passé. On ne sait pas où ils l'ont mis. Et dans Jean 21, Pierre, il en a tellement à la casquette qu'il dit « Salut, je retourne à la pêche. » Si ce n'est pas des gens qui sont déçus, et on peut quelque part les comprendre, ils étaient 3 ans auparavant en train de ravauder leur filet, et je leur dis « Toi, viens, essuie-moi. » Et ils sont en train de se dire « J'ai consacré 3 ans de ma vie, pourquoi ?» Et ces gars qui sont des pêcheurs professionnels, qui vont passer toute la nuit dans le lac de Tibériade. C'est magnifique, d'ailleurs, le lac de Tibériade. Et ils pêchaient la nuit, pourquoi ? Parce que les filets étaient en corde. Et les poissons ne sont pas plus bêtes. Hein. Quand ils voyaient les filets, le jour, ils disaient « Salut !» Ils restaient. C'est un Artémon au Burundi qui nous avait « Vous demanderez à André de vous la chanter. » Tout au fond de la mer, tout au fond de la mer, les poissons sont assis, attendant que les pêcheurs soient partis. Et c'est un peu ce que Pierre et sa bande de copains là, ont vécu. Toute la nuit, ils cherchent à pêcher et il ne se passe rien. Et pendant qu'ils sont en train de pêcher, il y a quelqu'un sur le bord de la rive qui a déjà préparé le barbecue avec des poissons. Ça, c'est moi, ça me plaît. Ils sont complètement déçus. Parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur avait fait miroiter quelque chose qui en fait ne s'accomplissait pas. Et je pense que dans nos vies, bien souvent, c'est aussi ce qui se passe. Nous avons, lorsque nous nous sommes engagés avec Jésus, lorsque nous avons accepté Jésus, on nous a dit que si on se convertissait, si on acceptait Jésus comme sauveur, on n'aurait plus de problème. Oui, d'accord. Ça serait le paradis sur terre. Tout serait merveilleux. Tout sera en gruyère parce que tout sera paix. Oubliez. Voilà. Je voulais juste savoir si vous suiviez. Et en fait, qu'est-ce qu'on se raconte, qu'est-ce qu'on se rend compte quand on regarde ces textes de l'Évangile, c'est que ces hommes s'étaient fait un Jésus à leur convenance. Ils ont imaginé un Jésus. Et lorsque leurs espoirs sont déçus, ce n'est plus réellement ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, c'est rien du tout. Je parlais de Jean 21 quand ils sont dans la barque et que Jean dit à Pierre, est-ce que ça ne serait pas le Christ qui serait de l'autre côté là-bas ? que nous dit la parole? Et ça, c'est un moment très important. La Bible nous dit que Pierre était nu. Et au moment où Jean lui dit, c'est le Christ qui est là-bas, la Bible nous dit que Pierre se revêt. Et pour moi, là, il y a tout un acte et une symbolique très forte. Dans le jardin d'Éden, nos premiers parents se sont dévêtus. Ils se sont dévêtus de quoi ? De la présence de Dieu. Quand la Bible nous dit, ils rendent compte qu'ils étaient nus, s'il vous plaît, soyez pas assez innocents, et j'oserais dire imbéciles, pour se rendre compte que Adam et Ève s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient différents. Et ça va. Quand la Bible parle de la nudité, c'est pas de la nudité physique. Oh, t'es pas pareil que moi. Quand la Bible nous dit qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils étaient découverts, dépouillés, déshabillés de la présence de Dieu. Et Pierre, dans sa nudité-là, moi, j'ai le sentiment le même, qu'il en avait tellement ras le pompon qu'il avait tout jeté par-dessus bord, y compris ses fringues. Et quand Jean lui dit, c'est le Christ qui est là-bas, il se revêt. Ok, il s'habille physiquement, mais je pense qu'il se revêt spirituellement de l'appel qu'il avait sur sa vie. Et lorsqu'ils ont commencé à manger le barbecue, Jésus vient lui poser une question. Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus remet ça, il repasse les plats. Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre répond, Seigneur, tu sais ce que je t'aime. Et je pense que Pierre a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il a ? Il a encore un peu de terre dans les oreilles, quoi. C'est pas possible, il entend mal. Et il va lui poser une troisième question. Pierre, m'aimes-tu ? Et là, dans la petite tête de Pierre, ça fait tilt. Il y a la lumière qui s'allume. Et il comprend ce que Jésus est en train de lui faire dire. La repentance de son reniement. Et là, Pierre, il ne se mouille pas. Seigneur, tu sais toutes choses. Oh là là ! Puisque je t'avais dit que je ne te renierai jamais, tu m'as dit avant que le coq chante une fois, tu me planteras trois fois. Et là, tu me redis la même chose, donc maintenant je te dis, tu sais toute chose. Et une fois que Pierre accepte la parole de Jésus, accepte, j'oserais dire, cette repentance, alors Jésus va lui parler, Jésus va lui donner une parole de connaissance. Mes amis, ça fait partie des clandestins que nous traînons dans notre vie. Parce que bien souvent, nous avons, nous aussi, des espoirs pleinement déçus. Et combien de fois, je ne vous demande pas de réponse, mais combien de fois dans votre vie, vous en avez, ah c'est pas gentil de dire ça, vous en avez voulu à Dieu, parce qu'il n'a pas fait ce que vous lui avez demandé de faire. Hein ? Si seulement je chopais au carrefour, je lui en... Ouais, bien sûr, je l'exprime comme ça. On n'oserait surtout pas parler de Dieu comme ça. Mais au fond de vous, le Stromboli en éruption n'est qu'un sorbet de réclame, quoi. Hein. C'est... Ça bouillonne plein pot, quoi. Seulement, nous sommes des BCBG, des bons chrétiens, bonne grâce. On n'osera jamais parler de la sorte. Mais quelque part, reconnaissons que nous avons été déçus. On nous a tellement fait miroiter des tas de choses. J'ai une bonne nouvelle. Dieu est le même. Quel enthousiasme. C'est impressionnant. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, tout à fait, on sent là. Hein, ça n'a pas du tout été conditionné, c'est merveilleux. Merci, j'apprécie beaucoup ta spontanéité. Et oui, Alors c'est tellement facile de le dire. Et si on se mettait à l'incarner? Parce que effectivement, Dieu n'a pas changé. La parole nous dit qu'il y a en lui aucune ombre de variation. Comme j'ai dit toujours, et je dis ça encore à mon petit-fils l'autre jour, si tu veux dessiner Dieu, tu traces un trait tout droit. Et oui. Pas plus haut, pas plus bas. Dieu est linéaire. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Alors, si nous sommes déçus, à qui la faute? Non pas que je veuille vous culpabiliser. Quoique, non, c'est pas vrai. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais parce que j'ai vécu les mêmes choses. Ça fait 40 ans, 45 ans que je prêche l'évangile. Pouf, ça rajeunit pas. Mais je préfère être aujourd'hui qu'à 45 ans en arrière. La seule chose que j'avais un peu plus de cheveux, c'est tout. À l'extrême, c'est le seul regret que je pourrais avoir. Oui, j'avais les cheveux jusque-là. On ne peut pas être et avoir été, que voulez-vous? Mais oui, parce que pourquoi un Pierre, un Jean, un Cléopas ont été déçus? Parce qu'ils se sont forgés un Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus de l'Évangile, avec ce Jésus qui s'est présenté en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur, en tant que Rédempteur, en tant que celui qui nous a donné son héritage. Parce que, encore une fois, ça vient aussi de l'autre clandestin dont on a parlé hier soir. Parce qu'on se considère comme rien du tout. Et on préfère naviguer dans les fosses sceptiques que dans le ciel. Oui. Désolé, mais c'est quand même une réalité. Hein. On est toujours en train de s'apitoyer sur son sort. La victimisation charismatique, ça on connaît. Hein. Et non. Et non. Je suis celui qui suis. Va leur dire, je suis m'est apparu. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce je suis qui m'est apparu. Vous vous souvenez, Moïse devant le buisson ardent, qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ôte tes chaussures de tes pieds. Parce que tu te tiens sur une terre sainte. Franchement, est-ce que vous avez compris ce que ça voulait dire? Et vous lisez des choses et vous pigez pas. Et vous êtes comme l'eunuque éthiopien là, sur le char de Philippe. Éphésiens chapitre 6, verset 10 et suivant. L'armure du chrétien. Que dit Paul? Mettez à vos pieds le zèle, les chaussures du zèle que donne l'Évangile. Tu te tiens sur une terre sainte et les chaussures avec lesquelles tu viens vers moi, c'est ton zèle humain. Alors, déchausse-toi et prends mon zèle. Et si tu prends mon zèle, alors c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer l'Égypte, mon peuple d'Égypte. C'est exactement ce qu'on verra dans Josué chapitre 5, lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Josué, et Josué ose lui dire, « Tu es avec qui, toi? Tu es pour ou tu es contre ?» Et l'autre dit, « Oh, comme t'as joué mon poulet, tu te tiens sur une terre sainte, et donc tu vas commencer par poser tes chaussures. » Parce que la façon comme tu es parti là, tu es mal parti. Donc il faut aller voir de remettre ton zèle en accord avec le zèle de Dieu. Et si ce matin, on vivait un peu la même chose, dire à ce clandestin des espoirs, de l'espérance déçue, des espoirs déçus, dire ok, je sais pourquoi, ça aussi ça a été déçu. Parce que tout simplement, j'ai toujours fonctionné, ou très souvent fonctionné, avec mon zèle humain.
C'est le zèle de Pierre.
Oh Seigneur, ça t'arrivera jamais.
Et Jésus ose lui dire, arrière de moi, Satan.
C'est pas un cadeau. Hein.
Eh mes amis, si ce matin nous osions nous déchausser de ce zèle humain, où on pense qu'avec nos propres forces, nous allons faire plein de choses. Non. Je l'ai cru pendant tellement d'années. Je me suis ramassé des billets de parterre extraordinaires. Je me suis pris des portes, la preuve. Incroyable. Jusqu'au jour où j'ai compris, parce que Dieu me l'a fait comprendre, que mon zèle était un zèle humain, un zèle charnel, et que je cherchais à servir Dieu avec mes propres forces. Et qu'en permanence, je ne pouvais être que déçu parce que je faisais des tas de choses pour exister, pour avoir mon identité, pour être reconnu, comme dirait André de Benet, pour faire péter mes galons. Une expression qu'il aime bien. Et puis, j'ai beau faire tout péter. Ça a été rien du tout. Jusqu'au jour où j'ai compris que ça ne pouvait pas fonctionner si je ne me déchaussais pas. Et si je n'acceptais pas de revêtir le zèle de Dieu. Et de ne faire que ce qu'il me demande de faire. Alors c'est vachement restrictif. Hein, parce qu'on a l'impression que subitement, le spectre de l'activité change. Mais par contre, quand je fais ce que Dieu me demande, yes, ça marche. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre ce matin. C'est à nous déchausser. À nous déchausser et à dire, Seigneur, ok, j'accepte de, j'oserais dire, de capituler. J'accepte de prendre ton zèle. Et pas ce zèle qui, avec lequel j'ai travaillé, j'ai voulu te servir pendant des années. Alors peut-être que vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Un mot dont on a horreur dans nos milieux, le brisement. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais attendez, c'est quoi le brisement? C'est quoi le désert? En général, quand dans les évangéliques on parle du désert, oh! Le pauvre chéri, il faut prier pour lui. Mais non, laissez-le dans le désert. Vous savez que c'est en hiver, alors que les arbres n'ont plus de feuilles, plus rien. C'est là qu'ils font les racines. C'est là qu'ils grandissent de l'intérieur. Qu'a fait Dieu le septième jour ou la septième période de la création? Que nous dit la Genèse? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Et du coup, nos premiers parents se sont reposés. Far niente. Les doigts de pied en éventail. Cool. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour une raison bien simple. D'abord, heureusement que l'homme n'a pas été créé le premier, parce qu'aujourd'hui, tous les syndicalistes nous diraient, quand nous avons fait le monde, ça déjà, ils ne peuvent pas le dire, c'est déjà bien, ça nous fait des vacances. Et quand Dieu a mis l'homme en repos, c'était pourquoi? Il avait une raison bien. Il suivait un plan. C'était pour quoi faire? Pour faire prendre conscience à l'homme qui il était, où il était et quelle était sa mission. D'accord? Vous êtes toujours là? Éphésiens chapitre 2, versets 6 et suivant. Pas trop long. ne donnez pas un micro à fil à André la semaine prochaine. Hein, parce que vous allez là. Il ne va pas pouvoir s'exprimer. Hein. Il court partout. Je ne dis pas que je vous l'ai dit. Éphésiens chapitre 2, verset 6. La Bible nous dit que le Christ nous a transportés, c'est Colossiens 1, 12, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et pourquoi nous sommes assis ? Pour prendre conscience dans le salut de qui nous sommes, où nous sommes et quel est notre mandat. Ouh ! C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que je dis, vous risquez de vivre, si ce n'est pas un temps de brisement, en tout cas un temps de repos, pour que vous preniez réellement conscience de qui vous êtes et quel est réellement l'appel qu'il y a sur votre vie. Ce n'est pas de courir dans tous les azimuts, tout azimut que vous allez découvrir quelque chose. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. Moins je cours, plus je travaille. Et là, vous allez découvrir des choses auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé. J'ai vécu ces temps 1991-1992 où Dieu m'a arrêté. Et comme je dis toujours, si vous ne voulez pas vous arrêter, vous inquiétez pas, le jour vient où il vous arrêtera. Mais un conseil, arrêtez-vous avant qu'il vous arrête. Ça fait moins mal. Ça, c'est un conseil d'ami. Après, vous le prenez, vous ne le prenez pas, c'est votre problème. Et oui, parce que si, ok Seigneur, je m'arrête. Et là, le Seigneur va commencer à vous parler. Va commencer à faire un peu le ménage. Et après, il va vous dire, voilà, maintenant, c'est ce que je veux de toi. Chose peut-être auquel vous n'avez pas été préparé. Parce que vous avez fait des grandes études, des tas de machins, des tas de ci, des tas de là. Et puis, moi, j'ai fait 5 ans de théologie, 4 ans de psychologie, pour me retrouver homme d'affaires. Et comme je dis toujours, les réclamations, le service après-vente, c'est plus haut. Et oui. Et je suis très heureux de ce que je vis. Parce que je sais que c'est mon mandat. Je sais que c'est mon appel. Mais je pense que si j'avais écouté un peu plus tôt, peut-être que j'y serais rentré un peu plus tôt aussi. Mais pendant des années, j'ai déployé mon zèle. Hein, un peu comme Élie, là, quand il râle après avoir tué les prophètes de Baal. Hein, vous vous souvenez, Élie au Carmel, là, d'un côté, les prophètes de Baal, ils ont invité Johnny, tout le monde chante allumer le feu. Et puis après, il y a Élie qui fait descendre le feu du ciel. Et puis, une fois qu'il a passé les aux torrents de Kisson, qu'il a passé tous les prophètes à la broche, il s'en va. Et il va se planquer sous un genêt. Il est un peu comme Jonas, il y a un parallèle là. Hein, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel et je suis le seul qui est resté là. Le nombrilisme et le défaitisme, alors le machin complètement victime. Oh, je suis le seul qui n'a pas plié le zèle. Je suis resté tout seul. Et le Seigneur lui dit, arrête de regarder ton nombril. Je te rappelle que tu viens de réveiller un peuple et tout un peuple est revenu à moi. Quoi, donc tu n'es pas tout seul. Il y a une église. Quoi. Voilà. Et oui, mais c'est ce que Dieu veut ce matin. Que vous soyez libérés de tout ce clandestin, des espoirs déçus, parce que vous n'avez pas, attelé la charrette au bon cheval. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est la pression culturelle. Alors, si vous voulez bien, même si vous ne les voulez pas, c'est pareil. On va prendre un texte, j'espère que votre rôti va bien dans le four. Ça va être un peu long. On va prendre un texte que vous connaissez par cœur, mais ce n'est pas grave, parce que déjà là, la pression culturelle va jouer. Je vais vous lire ce texte avec plein de connotations hébraïques, non pas que je vais parler en hébreu, mais seulement avec ce que l'hébreu dit de ce texte. C'est Genèse 22, le texte qu'on a appelé le sacrifice d'Isaac. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Là déjà, quand après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, et il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en pour toi-même au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient d'une façon fusionnelle. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le bois, le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux d'une façon fusionnelle. On peut déjà arrêter là. Qui est Abraham? Un païen. Un homme qui était à Ur en Chaldée, et un jour Dieu lui est apparu et lui a dit, va-t'en pour toi-même vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, ceux qui te béniront, je les bénirai, ceux qui te maudiront, je les maudirai. Abraham était un païen, adorateur de la lune, adorateur du soleil, faisant passer ses enfants par Moloch, par le feu. Et là, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, offre-le en holocauste. En hébreu, c'est élève-le au-dessus de toi. Oh, oh là. Seulement le problème, c'est que il entend la parole de Dieu avec sa culture. Comme nous lisons aussi la parole de Dieu avec notre culture. Avec les lunettes que depuis des années on nous a mis sur le nez. Et je sais que je vais vous fracasser. Tant pis, maintenant vous avez signé, alors je ne peux plus, je suis obligé de revenir. Mais je vais vous montrer ce texte tout à fait différemment. On a des mots en France et en français qui sont complètement sortis de leur sens. Quand on parle de la Shoah, on parle de l'Holocauste. Holocauste, c'est quoi? C'est une élévation. Et que je sache, les braves amis qui sont morts dans les camps de concentration, ils n'ont pas du tout été élevés. C'est exactement quand vous entendez encore ce matin à la radio, j'entendais qu'en Martinique, il y a eu plein d'inondations, et un commentateur disait que c'était apocalyptique. Que je sache, apocalypse, ça veut dire révélation. Alors la révélation de la boue, c'est pas terrible. Et on a déformé des tas de mots comme ça. Et dans le texte que nous venons de lire, ne perdons pas, nous sommes dans la culture. Dieu dit à Abraham, va-t'en pour toi-même. Ça veut dire que là-bas, j'étais fixé en rancard parce que j'ai quelque chose à t'apprendre. C'est exactement comme dans Genèse 12, quand il appelle, va-t'en pour toi-même. Et Abraham, quand Dieu l'appelle, il a 75 ans. Et Dieu lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Mais qui c'est celui-là, là? D'où il sort, ce Dieu? C'est pas bisounours, l'évangile. Hein? Et la parole de Dieu non plus, quoi. Hein? Je pense que le père Abraham, c'est l'inventeur de la machine à laver. Hein? Quand Dieu lui a dit, va-t'en pour toi-même, je vais faire de toi une grande nation, il a dû tourner trois fois dans sa tête. Hein? En disant, mais qu'est-ce qu'il me dit? Moi, je veux bien qu'il me dise tout ce qu'il veut. Mais il y a un problème sur son ordinateur. Et ma femme, là? Stérile. Comment il va faire pour faire de moi une grande nation? Bon, vous connaissez la suite. Et ce texte ne vous choque pas? Allez, je vous provoque. Et l'enquêteur, là. Ce texte ne choque pas quand tu le lis? Prends ton fils, ton unique. Depuis quand Abraham avec un fils? Et Ismaël, qu'est-ce que vous en faites? Ah mais c'est bien sûr. Il avait deux fils. Et pourquoi dit ton unique? Parce que simplement, c'est l'enfant de la promesse. L'autre, c'est le fils d'une mère porteuse. Mais là aussi, n'oubliez quand même pas une chose, et souvent on n'en parle pas. Quand Agar, qui a dit à Agar qu'elle portait un fils? C'est Dieu. Qui a béni Ismaël? C'est Dieu. Qui a prophétisé sur Ismaël? C'est encore Dieu. Ça nous amène à aimer les Arabes. Ah, on n'avait jamais pensé à ça. Non, je ne dis pas que tu n'y avais pas pensé. Nous n'avions jamais pensé à ça. Prends ton fils, ton unique, et élève-le au-dessus de toi. Et la Bible nous dit qu'Abraham se lève, et je pense que quand même, quand Dieu a dû lui dire ça, il dit, attends, je ne lui ai rien demandé, il est venu me chercher. J'ai une femme stérile, il me donne un gamin, j'ai 100 ans, il me file un gamin, et Isaac, quand Dieu lui demande ça, il a 39 ans. Hein. Il ne monte pas à Morija en poussant le landau. Hein. D'accord? Oui. C'est un rabbin qui me l'a dit. Moi, je pensais qu'il avait 19, 20 ans. Le rabbin m'a dit non, il en avait 39. Respect. C'était en buvant une tasse de café à Jérusalem. Et d'ailleurs, quand j'ai donné mon interprétation du texte, le rabbin m'a dit, tu es un des rares Français évangéliques à le comprendre comme ça. Ah, pas. Ils ont dû élargir les murs dans Jérusalem quand je me suis promené. Élève-le, va-t'en pour toi-même, élève-le au-dessus de toi. Et Abraham avait le statut social qu'il avait. C'était un patriarche, c'était un ponte. Hein, comme on dirait aujourd'hui, il était bardé de thunes. Quoi, hein. Et je pense que son âne, il y avait belle lurette qu'il n'avait pas scellée. Quoi, hein. En général, c'est les autres qui le scellaient pour lui. Hein. Et là, il se permet d'aller sceller son âne de bon matin, nous dit la parole, alors qu'il fait encore noir et que personne ne le voit. Parce que dans sa tête, c'est quoi ce Dieu qui me donne un fils et qui maintenant veut me le reprendre? Pas très logique ce gars-là. Donc, il va couper son bois, il scelle son âne, il coupe son bois et il part avec son fils. Et en hébreu, je l'ai lu exprès tout à l'heure, quand ils marchent, ils sont fusionnels. Ils sont fusionnels. Et là, ce qui est aussi super dans ce texte, c'est que il ne débranche pas. Il attend toujours de voir. Il reste en communion avec Dieu. Il n'a pas de problème avec la communion. Il attend de voir que Dieu lui montre le lieu. Mais la Bible nous dit qu'il prend avec lui deux jeunes serviteurs. Donc deux jeunes serviteurs, c'est deux personnes qui ne connaissent pas les habitudes du patron. Et ils montent. Et alors, je sais bien que Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi qu'Abraham allait sacrifier son fils. Je pense que c'est facile de l'écrire après. Je ne veux pas vous choquer, mais je pense que c'est facile. Parce que quand il monte et qu'il dit à son fils, parce que son fils quand même lui dit, attends papa, c'est bien beau, tu as tout ce qu'il faut là, tu as tout l'attirail, mais je crois que si on va sacrifier, il manque juste un détail. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham lui répond, mon Dieu se pourvoira lui-même. Allez, soyons honnêtes. Juste 2 minutes d'honnêteté. Est-ce que dans notre vie, est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà pas arrivé de vous retrouver coincé en disant, de toute façon, Dieu va faire quelque chose. C'est la foi ou c'est beauté en touche? Les deux, mon général. Mais il y a plus de bottes que de foi. Hein ben oui. Hey, c'était des gens complètement humains. Arrêtons de mystifier ces personnes comme si c'était des robots. C'était des gars qui pensaient. C'était des gars qui avaient une volonté. Hein? Quand Dieu a dit à Noé, construis-moi une arche, et qu'il a dit à ses voisins, je vais construire un bateau pour Dieu 150 mètres de long, et sur une montagne, les autres ont dit, mais tu es complètement barjot. La prochaine fois, tu mets une casquette quand tu sors. Ou alors, tu as dû te cogner ce matin, à la tête de ton lit. Boum. Vous vous rendez compte pour qui il a dû passer le Père Noé? Pour un charlot de première. Pour un caramel. Mais il est malade, ce type. Et Abraham, pareil. Tu montes à Morija, alors que tu n'as rien demandé, et Dieu te demande, soi-disant, de sacrifier ton fils. Mais c'est quoi, ce truc? Alors, il monte. Et il prépare tout. Et vous rendez compte à quel point l'emprise du père sur le fils était forte. J'ai deux fils. Nous avons deux fils. Et quand je suis à côté, quand je suis au milieu, je suis le plus petit et le plus gringalé. Hein? Quand je promène mes meubles, je promène mes armoires quand je suis avec eux. Et j'imagine mon fils de 39 ans qui habite Antony en train de le ficeler. Et le coucher sur un autel. Je pense qu'il m'en allonge une première. Il me met une tête au carré. Quoi. Isaac se laisse faire. Et il va jusqu'à pointer le couteau sur la gorge de son fils. Et là, il y a un ange qui dit « Oh ! Arrête les frais, là !» Là, l'ange n'est pas en train de lui donner un accessite, hein. Il arrête. Si tu fais ça, tu coupes tout. Tu enlèves toute la suite. Et là, Dieu intervient. J'ai pourvu. Et qu'est-ce qu'il y a dans le buisson? Qu'est-ce qu'il y a dans le buisson? Bah non! Il y a un bélier. Et un bélier, c'est quoi? C'est le père. Et pas le fils. Non, c'est le père qui avait besoin de couper l'aspect de la fusion entre le père et le fils. Si tu veux que le plan de Dieu se réalise et s'accomplisse dans ta vie, c'est par toi. Coupe. Coupe ta culture. Abraham, il a tout compris à travers sa culture. On ne va pas le lui reprocher. Non. Mais il a compris la parole de Dieu avec et dans sa culture. Et bien souvent, nous, quand nous lisons la parole, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous avons tous une culture. Européenne, africaine, etc. Nous avons tous une culture. Et quand nous lisons la parole, nous la lisons souvent avec le filtre de notre culture. Et elle nous piège. Elle nous piège. Oui, dans ma famille, ça s'est toujours fait comme ça. Et alors? Ça ne peut pas changer? Ah oui, mais Seigneur, mais tu ne te rends pas compte. Je m'en fous de ta culture. Ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, tu prennes la culture du royaume. Et cette culture du royaume est une culture, c'est une culture qui va libérer les choses, qui va me rendre libre. Si le Christ vous a franchi, vous serez entièrement libre. Arrêtons de citer des versets bibliques qui n'ont pas de sens dans nos vies. Je suis libre. Et je vous assure que c'est vrai. Et ça embête plein de gens. Qu'est-ce que ça me fait plaisir? Eh oui. Qu'est-ce que vous pensez de moi? La bonne nouvelle, c'est que je n'ai rien à faire. Comme je dis souvent, si vous pensez que je suis quelqu'un de bien, vous avez raison. Le contraire, c'est votre problème. j'ai pu, par la grâce de Dieu, comprendre ce texte d'Abraham. Et j'ai, parce que pendant des années, même en théologie, on ne m'a jamais expliqué ce que venait faire ce bélier dans ce buisson. Jusqu'au jour où j'ai dit un jour à Dieu, je voudrais casser, que tu casses mes lunettes. Je connais ta parole par cœur. Parce que j'ai appris plein de textes bibliques, parce que quand j'étais pas gentil, ma punition c'était ça. Je devais apprendre des chapitres de la Bible par cœur. Et oui. Et là-dessus, 50 théologies. Ça l'a panacée. Et j'ai compris que je lisais des textes à travers de tout ce qu'on avait pu m'enseigner, tout ce que j'avais pu apprendre. Et j'ai dit un jour à Dieu, casse mes lunettes. Je veux lire ta parole avec ton esprit. Je veux lire ta parole avec tes lunettes. Je veux que cette parole, quand je la lis, danse, vive, respire, m'amène plus loin. Et sur le premier texte sur lequel Dieu m'a conduit, Genèse 22. Et là, j'ai compris ce que faisait ce bélier dans ce bartas, dans ce fourré. Que c'était le père et pas le fils. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas voir un côté prophétique du sacrifice de Jésus. Je ne dis pas que tous les autres qui ont interprété ça autrement sont des hérétiques, pas du tout. Mais je suis convaincu que la première lecture, c'est ça. Et l'enseignement de ce matin, c'est que nous devons nous oser nous séparer de notre culture, telle qu'elle soit. Et je ne dis pas que la culture de votre pays, la culture de vos origines soit mauvaise. Je ne me permettrai jamais de dire ça. Parce que moi, un jour, quand j'ai commencé à aller en Sicile, j'ai commencé à m'énerver après mes amis siciliens. Je dis, purée, mais la culture qu'ils ont, elle m'énerve. Quand j'ai pris conscience qu'en fait, c'était une opposition de culture, et que j'étais moi aussi j'étais truffé de culture. Pardon ? Non ? Des préjugés, ouais. Ou des préjugés culturels, ouais. Il est tout à fait convaincu de ça, c'est bien. Et j'ai dit non. Et c'est là que j'ai dit que j'étais plein de culture et que je n'avais pas la culture du royaume. Si j'ai la culture du royaume, la culture du royaume, elle est basée sur quoi ? Sur l'amour. Pas sur autre chose. Et je suis appelé à aimer. Des fois, c'est pas facile, hein. Et des fois, il y a certaines personnes qu'on rencontre, on serait plus prompt à l'imposition des pieds qu'à l'imposition des mains. Ce qu'on appelle l'amour frappant. Mais c'est une réalité. Et nous avons besoin, là aussi, que notre clandestin culturel dégage. Et je sais bien que quand je dis ça, pour certains, je sens dans mon esprit que certains sont en train de dire « Mais je suis en train de renier ma patrie. Je suis en train de renier mes parents. » Vous êtes en train de renier rien du tout. Vous êtes en train de renier rien du tout. Seulement, Dieu veut vous conduire plus loin. Il nous a conduits dans le royaume du Fils de son amour. Donc, être conduit dans le royaume du Fils de son amour, c'est aussi, j'irai épouser la culture du royaume qui n'a rien à voir avec notre culture. Et oui. Comme je disais hier, parce que la parole de Dieu le dit, si le Christ vous a franchi, vous serez entièrement libre. Et la culture du royaume, c'est aussi la liberté. C'est la liberté. La liberté, c'est pas de faire tout ce que je veux. Hein? C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 5:20. Pécherions-nous afin que la grâce abonde ? Loin de là. Je ne fais pas ce que je veux, mais je sais que dans cette culture, l'amour et Dieu me conduit. Et je peux faire plein de choses. Je me sens entièrement libre, libre devant vous, libre devant Dieu, libre devant ma communauté, libre devant l'équipe dans laquelle je suis avec André, libre avec mon épouse. Aucun souci avec ça. Je vis et je m'éclate. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas revenir en arrière. Pas du tout. Et j'ai qu'un désir, c'est aller encore plus loin. J'ai qu'un désir, c'est être encore plus fou. Les espoirs déçus et la culture. revêtez-vous de l'homme nouveau. On a tous chanté ce cantique, celui que j'appelle le chant du dentiste. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Et le vêtement blanc, c'est le vêtement de la culture du royaume. Apportez, Luc chapitre 15, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. L'habit de la culture du royaume. Mettez-lui des chaussures aux pieds, symbole de la liberté. Et un anneau au doigt, l'alliance. C'est ce que Dieu veut faire avec vous ce matin, avec chacun de vous. Est-ce que vous êtes prêts à accepter de vous débarrasser de vos espoirs déçus? Est-ce que vous êtes prêts à vous dépouiller de votre culture? Ça va, attention. Vous débarrasser de votre culture, ça veut dire qu'à partir de là, je suis prêt à accepter ce que Dieu va me demander. Vous avez peut-être des idées, déjà des projets en disant demain, comme dit l'apôtre Jacques, hein, demain on fera ci, demain on fera ça, demain on ira là-bas. Ça me fait penser à mon fils aîné il y a deux ans, Samuel, qui un jour me téléphone et me dit: papa, je crois que je suis un carrefour de ma vie. J'aimerais seulement descendre dans la maison pour que tu puisses prier avec moi et discerner les choses pour l'avenir. J'ai dit: Samuel, le problème c'est que je suis ton père, pas ton pasteur. Alors si tu veux m'en faire venir ton pasteur et sa femme, qui sont mes meilleurs amis, nos meilleurs amis. Il m'a dit: ok, j'accepte. Et Samuel, quand il est arrivé, il m'a dit: voilà, moi j'ai des projets. Son épouse est suisse, notre belle-fille est suissesse, nul n'est parfait. C'est l'été là, ouh, ferait les gros yeux. Hein. Ah, Nadège me ferait les gros yeux. Et il me dit: voilà, on a commencé à parler avec Nadège et je pense que, ouais, on va partir, on va retourner en Suisse, enfin, on va partir en Suisse parce que là-bas je peux avoir du boulot, etc. Bon, hein, il est responsable du réseau ferré de France, mais là-bas, il aurait trouvé autre chose, ce n'était pas un problème. Je dis: ok, il y a déjà un projet, mais on va soumettre tout ça à Dieu et on va prier. On a prié. On a cherché la face de Dieu. Et Dieu a parlé. Et Dieu lui a dit carrément tout à fait autre chose auquel il ne pensait plus depuis 10 ans. Je vous assure, ça lui a mis un coup de barre. Et à sa femme encore plus. Après, on a géré le coup de barre. C'était seulement qu'il devait repasser, parce qu'il y a 10 ans qu'il l'avait passé, il avait échoué. Il devait repasser le concours de l'ENA. Chose qu'il est en train de faire en ce moment. Donc, si vous avez un moment pour prier aussi pour lui, il a encore 2 euros à passer. Voilà. Et c'était un coup de barre sur sa vie. Tu veux prendre la culture du royaume? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à ce que demain te disent: non, non. Ton projet n'est pas le mien. Si tu prends ma culture, tu t'alignes sur mon projet. C'est facile de dire à Jésus: Jésus, je t'aime. Au mois de juin, je lui ai dit: Jésus, je t'aime. Il m'a dit: c'est pas vrai. J'étais gonflé, dire ça. Pourquoi tu dis que c'est pas vrai? Parce qu'il m'a dit: sur un point de ta vie, ton cœur n'est pas aligné au mien. Pum! Prends ça dans ta bouche et mets-y ton mouchoir par-dessus. Waouh! C'est drôle, hein? Et c'est des réalités. Est-ce que je suis prêt à aligner mon cœur sur le cœur de Dieu? Ça veut dire que peut-être les projets que j'ai aujourd'hui, en fait, ne sont pas valables. Parce que ce n'est pas les projets de Dieu. Peut-être que je cherche à aller à droite, à gauche, à déménager, je ne sais pas où, peu importe. Ou à avoir des grands projets qui ne sont pas de Dieu. En disant: oui, mais là, dans ce projet, je pourrais servir Dieu. Qu'est-ce qu'on se sert de Dieu aussi, hein, pour faire passer la pilule aux autres? Surtout auprès du pasteur, ça fait bien quand on va vers le coup pastoral en disant: Dieu m'a parlé. Ah, ah. Il ne peut pas dire non. Eh oui, on sait comment lui parler à André et à sa femme. Mais c'est pas forcément de Dieu. Ok ? Vous êtes toujours là ? Donc maintenant, il y a un choix à faire. Est-ce que j'accepte de mettre à bas mes espoirs déçus et de revêtir le zèle de l'évangile, donc de mettre des godasses neuves, mais les chaussures du ciel? Et est-ce que j'accepte de mettre ma culture par terre? Alors, on va prier là-dessus, comme on l'a fait hier soir. Donc c'est un appel, vous l'aviez compris. Mais ce que je vais demander, on va faire ça en deux temps. Premièrement le zèle, deuxièmement la culture. Je vais vous demander, ne vous précipitez pas s'il vous plaît, parce que c'est un engagement que vous prenez. Jean Brunet, il n'en a rien à faire que vous le leviez ou pas. Hein. On ne sait pas moi quoi vous répondez. Moi si personne ne se lève, ce n'est pas grave. Hein. Le risque que vous avez, si Dieu me montre, c'est que je viens de vous chercher. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Et les gens ne le croyaient pas. Mais bon, pour la petite histoire. Simplement, on va prier pour le zèle. Ceux qui veulent vraiment revêtir le zèle de Dieu. Attention, c'est un engagement. Ça veut dire que tous vos plans peuvent être bousculés. C'est marrant, vous riez subitement, moi. Donc ceux qui veulent que je prie pour ça, je vous demande de vous lever. Mais pesez bien ce que vous faites. Hein. Sinon, André et Michel auront beaucoup de travail. Bénissons notre Père, nous voulons simplement élever ton nom pour qui tu es. Merci pour ta parole. Comme nous l'avons encore proclamé hier soir, cette parole qui sépare jointures et moelles. Seigneur, merci parce que nous pouvons encore ce matin dans ta grâce, dans ton amour, te venir à toi et te demander pardon. Pour le nombre de fois où nous t'avons servi avec notre propre zèle, avec où nous avons fait des tas de choses que tu ne nous as jamais demandé de faire. Mais nous les avons simplement fait pour faire briller nos plumes, pour avoir simplement une identité, une reconnaissance aux yeux des autres. Et Père, nous venons te demander pardon pour cela. Nous venons nous à tes pieds, devant ton trône. Nous venons nous déchausser de notre zèle. Nous venons capituler devant toi. Te dire, Père, étends ta main. Donne-nous tes chaussures. Les chaussures de ton zèle. Ce zèle qui est de toi, qui est fou, mais qui est canalisé. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu pardonnes. Merci parce que tu fais grâce. Merci parce que tu relèves. Merci parce que tu restaures. Merci parce que dans tes mains, un vase brisé peut redevenir une œuvre d'art. Et c'est ce que tu fais ce matin dans nos vies. Et nous voulons vraiment exalter ton nom, te bénir. Merci. prier pour la culture. Donc si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui sont assis et qui sont concernés, vous pouvez vous lever. Seigneur, nous venons devant toi poser nos vieux vêtements. Seigneur, me montre vraiment que, à cause de cela, beaucoup d'entre vous avez porté un manteau d'opprobre. Le manteau d'opprobre, c'est le manteau de la mort. Et Dieu veut vous enlever, comme il a fait à Gilgal. Roulez l'opprobre de votre vie. Roulez ce manteau d'opprobre, ce manteau de deuil, afin que vous soyez revêtus de la culture du royaume, du vêtement de Jésus. Seigneur, nous voulons accepter de rentrer dans la démarche de dire « Ok, je laisse ma culture afin de prendre ta culture. » Et cette culture m'amène à être branché en permanence devant toi. Et je te loue pour cela. Parce que tu dis que avec cette culture, tu nous appelles comme tu as appelé Moïse à dire « Je veux que tu sois la tête et non la queue. » Pardon, parce qu'à cause de notre culture, bien souvent, nous avons été la queue. Et tu veux faire de nous la tête. Alors Père, par cette culture dont tu nous revêts ce matin, embrase nos cœurs. Embrase nos cœurs. Renouvelle en nous ton Saint-Esprit. Que la grâce, la puissance de Dieu descende sur vous maintenant. Que le Saint-Esprit vous revisite tout à nouveau. Parce que cette culture, c'est la sagesse, mais c'est aussi la folie. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire. C'est les violents qui s'emparent du royaume. C'est les violents qui vont faire reculer les ténèbres. C'est les violents qui vont gouverner la terre. Eh oui, ça c'est une réalité biblique. Et je prie vraiment pour que l'onction de Dieu repose sur vous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.